Radio Campus 88.3.
17h, 18h, le mag culturel. Le mag culturel,
Radio Campus 88.3 FM.
88.3 FM. Bonjour et bienvenue dans le mag culturel de Radio Campus 88.3 FM. Aujourd'hui, on accueille Florence Bolton et Benjamin Perrault. Vous êtes de l'ensemble La Rêveuse que vous avez fondé. Bonjour et bienvenue dans le mag culturel.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez en effet fondé cet ensemble composé de musiciens solistes qui travaillent sur les patrimoines artistiques des 17e et 18e siècles, des périodes qui sont foisonnantes d'expériences et d'inventions artistiques de toutes sorte. Florence Bolton, vous avez commencé la musique très très tôt, dès l'âge de 7 ans, avec le clavecin, la flûte à bec, et c'est finalement la viole de gambe à laquelle vous allez consacrer votre carrière. Benjamin Perrault, vous avez étudié la guitare classique, vous avez choisi de vous consacrer essentiellement à la musique ancienne en étudiant le théorbe, une sorte de grand luth créé en Italie à la fin du XVIe siècle. Vous vous consacrez également au luth et à la guitare baroque. Vous avez tous deux participé à de nombreux enregistrements discographiques, vous êtes produit dans de nombreux festivals en France, à l'étranger, et en 2004, vous avez fondé cet ensemble, La Rêveuse. Alors vous allez nous expliquer pourquoi il s'appelle La Rêveuse, et ça prend tout son sens cette année en particulier. Voilà, c'est ce qui vous rassemble, entre autres, ce sont les recherches historiques que vous menez et qui aboutissent à la création de projets musicaux, mais pas seulement. Vous travaillez souvent à créer des liens entre différentes pratiques artistiques avec le monde du théâtre, notamment celui de la littérature, des beaux-arts, pour découvrir des textes classiques. Vous avez créé notamment L'autre monde et les États, ou les États et Empire de la Lune de Cyrano de Bergerac et les caractères de la Bruyère avec le comédien et metteur en scène Benjamin Lazare, le bourgeois gentilhomme de Molière et Lully avec Catherine Hegel et François Morel ou bien d'autres participations aussi dont on parlera tout à l'heure. Vous avez également créé de nombreux concerts, conférences sur des sujets croisant musique et actualité, la place des femmes dans la musique, les animaux et les compositeurs, les histoires de l'invention des instruments et tout ça. Ces projets, vous les menez avec les médiathèques, les conservatoires, les écoles primaires, les collèges, et ils rencontrent un vrai succès public. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, avec vous, on va parler de votre dernier disque, London Circa 1760. Il est paru chez Harmonia Mundi et il est nommé au International Classic Music Awards 2026. La cérémonie aura lieu en mars prochain en Allemagne. Vous devez être particulièrement fier, en effet, de votre disque.
Alors, on a été nominés, mais par contre, on n'a pas été. C'est pas nous qui avons eu le prix dans la catégorie musique ancienne, mais on a été nominés. Donc, c'est comme d'avoir été mis sur la liste du Festival de Cannes. Donc, finalement, oui, on est quand même assez contents.
Alors, votre discographie, elle est très riche. Vous avez déjà reçu de nombreux prix, hein, même si celui-là, bon, bah, vous avez juste été nommé. c'est le 20e disque de votre discographie, London 1760. C'est le 4e et dernier volet des London Circa. Alors, au départ, quand vous avez conçu le premier London Circa 1700, en fait, est-ce que vous avez pensé faire une série comme ça?
Oui, c'était l'idée. On pensait vraiment montrer les différents aspects de l'évolution de la musique à Londres au XVIIIe siècle. Il y a eu vraiment différentes périodes avec des esthétiques très différentes. Et les quatre disques ont chacun vraiment son identité.
Et puis l'idée de la forme série nous intéressait aussi, puisque les séries, on en regarde beaucoup à la télévision, par exemple. Et c'est une forme intéressante parce que ça permet de traiter un sujet, mais dans le détail, ce qu'on ne peut pas faire forcément sur un seul disque. Et on s'est dit, bah voilà, les séries, ça marche bien à la télévision. Pourquoi pas essayer une série au disque? Et c'est vrai que ça a marché parce que plus les disques sortaient, au début les gens disaient ah bon ok, puis après il y avait le 2, le 3, puis quand les gens finalement finissaient par dire ah oui, alors le 4, hop, ça, et tout le monde l'attendait comme dans les séries.
Mais alors, c'est le quatrième et le dernier, vous avez bouclé la boucle, ou est-ce que, de toute façon, c'est tellement riche, en effet, que vous pourriez y consacrer peut-être huit éditions au final, quoi.
Oui, on aurait pu faire plein de choses. Après, c'est vrai que en cas de disque, on a déjà dit pas mal de choses. Et aussi, il se trouve que là, on s'est arrêté en 1760, et c'est une période un peu charnière jusqu'aux années 1780 où les instruments vont changer après. Et je trouve que ça aurait été intéressant finalement de passer le relais à d'autres instrumentistes qui jouent d'autres instruments. Mais bon, ça s'est pas fait. Mais l'idée aurait été intéressante finalement de passer le relais à une autre équipe qui aurait montré ce qu'était devenu la musique après au 19e siècle, puis au 20e siècle en Angleterre.
Alors, 1760, ça marque un tournant dans l'histoire anglaise. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe particulièrement à cette période?
Alors, on a fait quatre disques qui se situent à 20 ans d'intervalle parce que 20 ans, c'est curieusement, c'est toujours une période où des changements finissent par arriver. Et là, il se produit beaucoup de choses en Angleterre, notamment la mort de Handel, qui est quand même le grand musicien. Même si on ne connaît pas la musique anglaise, tout le monde a. Enfin, je pense que chacun a entendu une fois dans sa vie parler de Handel, qui était un peu le grand personnage, qui est allemand, qui promeut l'opéra italien en Angleterre et qui finit par devenir finalement l'image de la musique anglaise, qui est quand même assez étonnant. Et donc Handel meurt en 1759, ça tombait bien pour notre série. Et en plus, il y a un changement de roi aussi. Et bien souvent, chaque roi a sa personnalité, donc ils vont partir dans une direction ou une autre. Il se trouve que celui-là, voilà, a apporté quand même des changements. C'est en
Alors, il est
Angleterre.
très jeune quand il arrive au pouvoir déjà.
Oui, alors souvent, c'est vrai, les rois arrivent quand même relativement jeunes parce que leur père meurt assez jeune. Et du coup, l'intérêt de ce roi-là, c'est que c'est une famille allemande qui règne en Angleterre au XVIIIe siècle. Et celui-là, c'est le premier qui est né en Angleterre et qui parle anglais. Ça paraît quand même complètement hallucinant, mais les deux premiers rejetons de cette famille de Hanovre allemande ne parlent pas anglais, s'intéressent peu à l'Angleterre et sont plus souvent dans leur fief en Allemagne, finalement. Donc, voilà, on a enfin un roi qui aime son pays.
Et puis, c'est un roi qui s'intéresse particulièrement à l'agriculture, aux sciences, et qui va se faire même appeler le roi fermier. Donc, j'ai lu ça dans la bio, c'est intéressant en fait aussi parce que quelque part, ça enlève un peu de noblesse au roi à cette période en plus qui va être marquée peut-être par justement des changements politiques aussi, quoi.
Oui, c'est un roi qui est plus humain, qui va plus à la rencontre des gens. Le fait de parler la langue, déjà, ça permet d'établir plus de contacts. Et alors, c'est un roi qui va finir fou. Et donc, voilà, ça a beaucoup marqué les Anglais. Et il y a même eu une pièce musicale au XXe siècle qui s'appelle The Mad King, qui a été écrite sur ce roi, dont la folie a quand même frappé les gens. Il était vraiment fou allié à la fin de sa vie.
Et donc London circa 1740 se consacrait aux musiciens de Handel justement. Alors, est-ce que c'est le même Handel? Oui. Là, on est sur Bach, Abel and Friends. Alors, c'est pas le Bach, c'est
Son fils,
son
c'est le
fils,
dernier
voilà,
fils,
le dernier
le
fils
petit
Bach.
dernier.
Voilà.
Le dernier fils de Bach, Abel and Friends. Donc là, on est sur d'autres compositeurs en fait qui sont de cette époque-là,
Oui, alors
davantage, vu que Handel est mort.
voilà, c'est une génération plus jeune que Handel, donc ils sont modernes quelque part, à une époque où Handel, finalement, sa musique commence à passer de mode. Et cette nouvelle génération, hein, ça se passe même encore aujourd'hui, hein, chaque génération amène quelque chose de nouveau. Cette nouvelle génération apporte d'autres esthétiques. Et d'ailleurs, le roi et la reine d'Angleterre seront pas tout à fait d'accord. Le roi aime plutôt la vieille musique, on va dire, avec Handel. Et puis la reine aime plutôt la nouvelle génération qui apporte des nouveautés.
C'est une esthétique qui est vraiment précurseur, on dit,
Oui.
au féminin, pardon, de Mozart. Voilà, qui a d'ailleurs voyagé en Angleterre à l'âge de 8 ans et qui a entendu notamment des symphonies de Abel qui l'ont influencé pour sa première symphonie qu'il a écrite à 8 ans.
Et alors, avec justement cet aspect foisonnant en fait de cette grande ville qui est Londres, les concerts aussi s'organisent autrement à cette époque.
Oui, ce qui est frappant à Londres au XVIIIe siècle, c'est que finalement, on est presque dans le même système qu'aujourd'hui, c'est-à-dire de l'autoproduction. On sait tous que, par exemple, en France, avec l'époque de Louis XIV, le roi pensionne des artistes, etc. Mais à Londres, ça ne se passe pas du tout comme ça. Justement, entre autres, avec cette famille royale allemande qui ne s'intéresse pas du tout aux artistes, ils sont un petit peu radins aussi, ils vivent repliés sur eux-mêmes. Et donc, bah, l'idée d'avoir une cour, finalement, qui sera un peu l'emblème de la prospérité du pays, ne leur vient pas du tout à l'idée. Et donc, ils vivent un peu comme des bourgeois, retirés, comme ça. Et finalement, les artistes vont devoir s'occuper eux-mêmes de leur autopromotion, aller chercher des mécènes, organiser des concerts, faire leur publicité eux-mêmes, payer des musiciens. Enfin, voilà, on se retrouve avec l'image de l'artiste entrepreneur, pas très loin de celle qu'on a aujourd'hui, finalement.
Et notamment dans les pays anglo-saxons.
Notamment dans les pays anglo-saxons, à une époque où l'intermittence n'existe pas.
Une vision commerciale, entre guillemets, des arts.
Voilà, qui existe encore vraiment aujourd'hui, on la retrouve.
Alors, parlez-nous peut-être de ces trois compositeurs qui viennent rythmer London circa 1760, Bach... Donc, Johann Christian Bach, Carl Friedrich Abel et Thomas Alexander Erskine, Rudolf Straube, Anne Ford. Voilà, donc différents compositeurs qu'on ne connaît pas forcément, en fait, comparé à Handel, en effet. Quoi.
Oui, c'est une génération de gens qui sont peu connus si on ne s'intéresse pas vraiment à cette période-là. Alors, Johann Christian Bach, c'est le dernier fils de Jean-Sébastien Bach. Donc là, celui-là, on peut le situer. Il arrive en Angleterre pour... on l'appelle pour écrire de l'opéra, puisque Handel est en partie. Ça laisse la place fumante, on va dire, pour celui qui va prendre la place. Et vraiment, faire de l'opéra à Londres, c'est la grande affaire. Londres, c'est un des plus grands lieux où on peut entendre les meilleurs chanteurs du temps. Farinelli, par exemple, va se produire à Londres, alors dans l'orchestre concurrent de Handel. Ça, c'est plein il y a plein d'histoires autour de l'opéra. Mais donc, la place est chaude. Et donc, tout le monde veut récupérer cette place que Handel a laissée. Johann Christian Bach va tenter sa chance. Il va d'ailleurs réussir pas mal. Et puis, arrive aussi un tout petit peu avant Carl Friedrich Abel, qui est lui un grand joueur de viol de gambe. Alors moi, il m'intéresse beaucoup parce que c'est un des derniers à jouer cet instrument qui va disparaître peu de temps après lui. D'ailleurs, il réussit quand même à remettre la viole à la mode en Angleterre, ce qui est quand même un exploit. Et donc, les deux vont s'associer pour lancer une société de concerts, les Bach-Abel Concerts, où on entend vraiment une des plus belles programmations d'Europe du moment, puisque ce sont deux grands virtuoses. Ils appellent évidemment des grands musiciens aussi pour jouer avec eux. Ils font entendre leurs pièces. Ben voilà, moi, je regrette de ne pas avoir vécu à cette époque parce que j'aurais rêvé d'entendre ces concerts-là. Erskine, c'est un Écossais. On a toujours tiré des petits fils aussi dans cette histoire du Royaume-Uni, hein, avec l'Écosse, qui est quand même un pays qui a sa propre culture et... Aujourd'hui, c'est encore un sujet. Hein. Est-ce qu'ils vont rester avec l'Angleterre ou pas? On ne sait pas. Mais en tout cas, ils ont toujours prôné leur culture qui était différente de celle de l'Angleterre. Et donc, Erskine, ça reste un des grands symboles de la musique écossaise. C'est quelqu'un qui a étudié en Allemagne.
À Mannheim. Avec Stamitz, le grand violoniste.
Voilà,
Stamitz.
Donc Erskine est peu connu aujourd'hui, mais quand même quelqu'un tout à fait... réputé. Et puis, il va y avoir Anne Ford aussi, un des sujets du disque, qui est une femme musicienne, parce qu'on voulait parler des femmes musiciennes qui ont finalement peu d'occasion de se faire connaître. Hein. Il y en a eu, mais on n'en parlait pas tellement, en fait. C'était surtout les hommes qui étaient sur le devant de la scène. Elle a une carrière très courte, de 2 ans à peine, 22-23 ans, donc très jeune aussi. Après, elle va s'arrêter. Pour diverses raisons, voilà, qu'on explique tout dans le livret, mais surtout, elle a laissé on a perdu une partie de sa musique, mais ce qui reste, c'est assez étonnant, et c'est pour ça qu'on avait envie de l'enregistrer. C'est de la musique écrite pour les vers musicaux, qui sont des vers à pied qu'on remplit d'eau, et on en met plein pour avoir toutes les notes. Et c'était très à la mode chez les dames, en Angleterre. Alors, Anne Ford jouait de ça, donc elle a laissé une méthode, et elle jouait aussi de la guitare anglaise, qui est un instrument très particulier. Et je laisse Benjamin, le spécialiste des cordes pincées, en parler.
Oui, alors la guitare anglaise, c'est de la famille des sistres, Un peu comme la guitare portugaise, si vous voyez ce que c'est. Ça a une forme un peu différente de la guitare qu'on connaît, des cordes métalliques. Et ça a été apporté en Angleterre par des luthiers allemands, donc qui sont venus aussi avec la cour, etc. Et cet instrument a connu un succès énorme. On peut en voir aujourd'hui dans les musées les grands musées des pays anglo-saxons. Il y en a au Metropolitan à New York, il y en a dans les grands musées londoniens, etc. Et cet instrument a vraiment fait fureur à Londres, au point de quasiment détrôner le clavecin dans les salons. Et il a été utilisé jusqu'au début du 19e siècle.
Et rajoutons que c'est un instrument de dame, parce que les instruments sont très genrés. Et voilà, celui-là était réservé aux dames, parce qu'on évitait que les dames aillent trop faire de la musique de chambre ou de l'orchestre. Hein. On ne voulait pas qu'elles sortent et qu'elles aillent jouer avec d'autres gens. On préférait qu'elles jouent chez elles, dans leur intérieur, comme ça elles ne sortaient pas. Et c'est pour ça qu'elles jouaient du clavecin ou de la guitare anglaise, sont des instruments qu'on peut jouer tout seul. On n'a pas besoin de jouer tout le temps avec un partenaire.
Voilà, il y a des compositeurs très, très intéressants qui se sont emparés de l'instrument, donc des hommes qui ont écrit pour les dames, dont Geminiani, le grand violoniste italien, qui étonnamment a composé de la musique pour la guitare anglaise.
Eh bien, ça tombe bien puisque c'est le morceau qu'on a choisi. Sur London circa 1760, en effet, Francesco Geminiani, les pièces Pieces for English Guitar, qu'on va écouter dès maintenant sur Radio Campus. Merci d'être avec nous. La rêveuse, on continue le mât culturel juste après, en effet, cet extrait.
Thank you.
extrait de London circa 1760. On écoutait à l'instant Johann Christian Bach pour le quartet opus 8 numéro 2. Voilà, donc extrait de ce dernier volet des London circa. Voilà, alors n'hésitez pas à courir vous acheter en effet un volet ou tous les volets en effet de ces disques qui sont consacrés à la musique anglaise, mais pas que de cette époque-là. En tout cas, ça nous replonge en effet dans l'histoire anglaise. Voilà, si on est passionné d'histoire, c'est aussi une bonne façon en fait d'arriver dans la musique baroque. Avec justement les livrets qui sont passionnants et qui sont très très référencés, très voilà, très bien écrits. Merci beaucoup voilà pour ce beau travail encore une fois. Alors on va parler de votre création de cette année. C'est Tempus Fugit. Voilà, vous jouez cette création en janvier prochain, enfin à la fin du mois de janvier, la semaine prochaine, 23 janvier, 24 janvier à la Scène nationale d'Orléans. On va écouter un petit extrait déjà pour se mettre en jambes, on va dire, puisqu'il s'agit de danse également. Alors, ce qu'on écoute, c'est Marin Marais, la sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris. C'est Jordi Savall, en fait, qui joue. C'est le point de départ de Tempus Fugit.
Alors, effectivement, Tempus Fugit, comme son nom latin l'indique, c'est un projet sur le temps. Le temps fuit. Hein, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir et le présent est quelque chose de très bref et on est déjà dans le passé. Et cette question nous intéressait, nous aussi, en tant que personnes qui prennent de l'âge, mais aussi en tant que musiciens. Et aussi, on avait envie de travailler sur la danse. La danse, c'est aussi quelque chose qui est lié au temps, comme la musique. Et donc, cette sonnerie de Sainte-Geneviève-du-Mont, effectivement, c'était une des pièces auquel on a pensé tout de suite, parce que la sonnerie de Sainte-Geneviève-du-Mont, ce sont donc les cloches de l'église Sainte-Geneviève-du-Mont à Paris, qui ont inspiré ce compositeur, Marin Marais, pour faire une forme qui est une forme à variation sur ces cloches qu'on entend, tout le temps, qui étaient les trois cloches qui sonnaient. Et donc les cloches, c'est quelque chose aussi de très important dans cette question du temps, puisque... maintenant, on a des téléphones, on a des moyens de savoir l'heure qu'il est tout de suite. Mais à l'époque, depuis très longtemps, en fait, c'était pas si simple. Et les cloches ont été une des premières manières de donner le temps et sonner plusieurs fois, de rythmer la journée, ça, etc. Ouais. Voilà. Donc les cloches, c'était quelque chose de très important. Et c'est en cela qu'on avait envie de travailler sur cette pièce. Et aussi parce que c'est une très belle pièce à danser. Le danseur était... ravie de pouvoir danser sur cette pièce qui est très longue et il faut tenir justement pendant, je ne sais plus, 8 minutes ou je ne sais plus combien de temps elle dure, mais voilà, il faut arriver à tenir toute cette durée avec la danse et la musique.
Oui, Pierre-François Adolé, notre danseur, s'y prend vraiment très bien. C'est un spécialiste, entre autres, de la danse baroque, mais pas seulement.
Donc oui, faire appel à un danseur, c'est une nouveauté. Pour vous, est-ce que vous aviez déjà pu faire ça lors de vos créations ?
Alors, on a déjà travaillé avec des danseurs, mais pas la riveuse. Donc, pour la riveuse, c'est une première fois. Et on voulait travailler comme on fait d'habitude dans tous nos spectacles, c'est-à-dire de travailler à la fois sur de la musique baroque, mais aussi sur d'autres musiques de création. Puisque pour nous, musiciens, enfin pour Benjamin et moi en tout cas, c'est important que nos instruments anciens restent pas seulement dans le XVIIe et le XVIIIe siècle, mais qu'ils aient aussi une vie au XXIe siècle. Et donc, on travaille souvent avec des compositeurs. Et on avait la même envie pour la danse, c'est-à-dire qu'on trouvait intéressant qu'il y ait de la danse baroque et des références au ballet de cour, qui a été quelque chose d'important en France, notamment à l'époque de Louis XIII et Louis XIV. Mais pas que, il fallait aussi qu'on puisse sortir la danse de là et montrer des danses plus modernes. Et donc, on a travaillé sur d'autres danses. Donc, il y a même un rock punk à la fin. Voilà, donc on va passer par toutes sortes de danses au cours de ce Tempus Fugit.
Alors, il y a eu d'autres inspirations dans cette création. C'est également une ode au printemps de Botticelli. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, alors il y a une création vidéo réalisée par Antonin Bouvray, qui a fait un travail extraordinaire à partir de ce tableau, donc qui passe par toutes les saisons, puisqu'on n'a que le printemps de Botticelli, donc on voulait voir les autres saisons. Les personnages sont animés, et pour les animations, il s'est inspiré des animations de Monty Python. Voilà, donc avec à la fois beaucoup de poésie et d'humour. Et franchement, il a fait un travail extraordinaire.
Et puis aussi, dans les images, il y a des références à la vanité, qui est une façon de montrer le temps en images, faire voir le temps. Donc il y a plein de petites citations dans les images. Et oui, on cite Antonin Bouvray, et il faut citer aussi notre compositeur, Vincent Bouchot, qui est notre compositeur associé en quelque sorte, et qui nous accompagne depuis longtemps dans beaucoup de créations.
Donc, Tempus Fugit, c'est au Théâtre d'Orléans les 23 et 24 janvier prochains. Au niveau du répertoire, vous le disiez, hein, vous avez essayé de mêler à la fois votre répertoire baroque, je veux dire habituel, mais ce n'est pas forcément le bon mot, en fait, parce qu'il n'y a pas réellement d'habitude, mais c'est plus, vous êtes un ensemble baroque, et là, vous avez souhaité, en effet, y mêler d'autres choses. On pourra trouver, en fait, pièces de Marin Marais, hein, vous le disiez tout à l'heure. Non, on en parlait au début, au tout début de l'émission. Hein. Votre nom, en fait, vient d'une pièce de Marin Marais. Oui. Buxtehude, et puis peut-être d'autres dont je n'ai pas le nom. Voilà.
Oui, alors il y a Marin Marais, Buxtehude, il y a du Purcell, compositeur un peu connu de l'Angleterre de la fin du XVIIe siècle. Il y a aussi Desmarais, qui est un compositeur français contemporain de Marais, Desmarais et Marais, mais qui est un peu moins connu. Et puis, donc, il y a des œuvres de Vincent Bouchot.
Et puis, un petit extrait d'un ballet de cour de Lully, le ballet du temps. Voilà, donc là il s'agit d'une recréation, puisqu'en fait, on n'a que la partie de violon. Voilà, donc on a écrit un accompagnement spécialement pour le spectacle.
Voilà, et on s'est rendu compte en regardant le répertoire des ballets de cour, qui est un répertoire qui existe avant l'opéra, donc c'est dansé. Voilà, il y a de la pantomime, enfin voilà, c'est quelque chose qui se passe, c'est pas du théâtre ni de l'opéra, mais c'est vraiment le divertissement qu'on avait à la cour avant. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de références au temps. Il y avait le ballet des saisons, le ballet du temps, le ballet des 24 heures. Donc voilà, c'est une thématique, le ballet de la nuit. Donc c'est des. Voilà, se situer par rapport au temps, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les arts de l'époque aussi, enfin au XVIIe siècle. Donc c'est aussi ça qui nous a donné un peu le point de départ de ce Tempus Fugit.
Et à quel moment dans la musique il y a cette notion de temps qui est écrite?
Alors dans la musique c'est très complexe parce que alors il y a un rythme, donc déjà ça donne une indication de temps. Et puis il y a quelque chose de beaucoup plus subtil finalement, c'est la manière dont nous on va vivre le temps. Parce que, par exemple, on peut jouer la même pièce, Benjamin et moi, et Benjamin va avoir l'impression que c'est lent, et moi, je vais avoir l'impression que c'est rapide. Voilà, donc c'est ça, cette subjectivité du temps aussi. Je trouve que c'est un aspect intéressant de... Et alors, du coup, on a joué là-dessus aussi dans le spectacle, puisque Vincent Bouchot, qui est un compositeur qui a pas mal d'humour, au début, enfin, il y a tout un truc autour de une minute lente, une minute rapide, une minute très très lente. Voilà, parce que la manière de ressentir une minute peut être très différente.
Ce qu'on y
voilà.
Fait.
Et donc, il y a vraiment, là, les musiciens se sont partagés entre la percussionniste qui vit ça d'une manière très dynamique et nous, on est de plus en plus lent. C'est un moment assez marrant du spectacle.
Alors, le 23 janvier, vous donnez cette pièce pour des scolaires. Ça fait partie, en effet, des choses que vous aimez faire, hein, montrer et faire découvrir votre répertoire à des plus jeunes, des tout jeunes. C'est également tout public à 20h30. Et puis, le 24 janvier, de 14h à 17h, Jamais sans ma tribu, c'est un atelier en famille autour de la danse qui sera mené par Pierre-François Dollet, toujours au Théâtre d'Orléans, scène nationale. Alors, c'est en lien avec le spectacle Tempus Fugit que l'équipe du Théâtre d'Orléans a décidé de remonter le temps pour proposer une immersion joyeuse dans l'époque baroque, avec un moment convivial imaginé avec la complicité de l'association des Jeux pour tous du Loiret. Et du chorégraphe et danseur Pierre-François Dollet.
Voilà, et je crois qu'il reste quelques places d'ailleurs l'atelier avec Pierre-François.
Oui, et je crois que c'est gratuit, donc surtout n'hésitez pas à vous inscrire.
une belle occasion de découvrir en effet pratiquer la danse de cette époque. Alors, c'est quand même assez inédit, voilà ce qu'on vous propose au Théâtre d'Orléans. Pour illustrer, j'ai choisi l'Apollonoise de Marin Marais. Alors, est-ce que ça a quelque chose à voir ou pas? Je ne sais pas. Moi, je suis complètement novice en matière de musique baroque, je vous l'avoue. Donc, est-ce que l'Apollonoise a quelque chose à voir avec votre spectacle, justement?
Alors, on ne la joue pas dans le spectacle, mais c'est une pièce de Marin Marais. Donc, effectivement, il y a un lien de ce point de vue-là avec l'époque et le répertoire.
Alors, on l'écoute tout de suite sur Radio Campus. Avec l'ensemble La Rêveuse, le magazine culturel de Radio Campus, on écoutait l'Apollonoise de Marin Marais. Pour continuer à parler de votre actualité, eh bien, il y en a une également, toujours dans la région, mais plutôt du côté du Vendômois, puisque vous allez jouer à nouveau le Rossignol et l'Empereur de Chine, et également... la fabuleuse histoire des oiseaux dans la musique. Ça, c'est une conférence que vous proposez régulièrement, qui a sûrement à voir avec le concert des oiseaux et le carnaval des animaux en péril de Vincent Bouchot que vous avez créé l'année passée. Donc c'est une conférence que vous donnez autour des instruments qui vont reprendre en fait les sons d'oiseaux, les chants d'oiseaux. C'est passionnant également. Donc, si vous avez envie de découvrir en effet des instruments qui ne sont pas d'aujourd'hui, mais plutôt des siècles, des 16e, 17e, XVIIe, XVIIIe siècle. C'est au grenier de l'abbaye à Vendôme. C'est les Amis de la musique en Vendômois qui proposent ça le 8 février prochain à 16h. Et puis à 17h, en fait, vous pourrez assister au Rossignol et à l'Empereur de Chine, en fait, qui est une autre création de votre cru. Rossignol et l'Empereur de Chine, on est voilà, sur un conte d'Andersen que vous avez adapté et mis en musique, avec toujours ces instruments anciens.
Oui, alors, on a appris récemment qu'il y avait un petit changement d'heure, d'ailleurs.
Ah.
C'est à 15h et à 16h. Donc 15h la conférence et 16h le spectacle. Là,
pour nos amis vendômois qui nous écoutent sur le stream seulement.
Voilà, notez bien les bons horaires. Alors, effectivement, oui, c'est un grand projet à géométrie variable, on va dire, puisque le sujet, c'est les oiseaux. Comme pour le Tempus, on a commencé un grand projet sur le temps. Là, c'est un sujet sur les oiseaux. Et donc, il y aura ce conte d'Andersen, qui est un conte qui parle d'un oiseau, le rossignol, qui est un oiseau emblématique aussi des poètes et qui a fasciné les compositeurs, puisque c'est un des grands oiseaux virtuoses. Et puis donc, il y a cette conférence avant qui va expliquer justement quels oiseaux ont intéressé les compositeurs, pourquoi, est-ce qu'on est capable, nous humains, d'imiter les oiseaux, est-ce que c'est possible, est-ce qu'il est possible
qu'est-ce
de noter leur chant, voilà, qu'est-ce qu'ils racontent, voilà, toutes ces questions qui font le lien entre l'oiseau et le monde de la musique sont abordées dans cette conférence. Et puis le spectacle, donc c'est un spectacle de théâtre d'ombre avec de la musique de Vincent Bouchot et de la musique baroque. Et nous serons accompagnés de la marionnettiste Cécile Urbeau, de la compagnie Jeux de Vilain, qui est à Laillé-en-Val, donc pas très loin, et du musicien Kosuke Nozaki, qui joue toutes ces petites flûtes incroyables, dont certaines font la taille d'un demi-doigt. Voilà, il n'y a que lui au monde qui arrive à jouer ça. Mais qui sont petites parce qu'elles doivent sonner extrêmement aiguës pour imiter la hauteur de l'oiseau.
On écoute tout de suite un extrait du Rossignol et de l'Empereur de Chine, parce que c'est également un livre CD que vous pouvez vous procurer.
Le Rossignol et l'Empereur de Chine. Conte réaliste se passant dans un monde imaginaire. Vous savez sans doute qu'en Chine, le souverain est un Chinois. Et tous ceux qui l'entourent sont également des Chinois. Il y a bien des années, dans ce pays lointain, on pouvait admirer le palais de l'empereur, qui était le plus beau du monde. Entièrement construit de la porcelaine la plus précieuse et la plus fine, il fallait d'ailleurs y faire très attention. Dans le jardin, poussaient des fleurs merveilleuses. Et afin que personne ne puisse passer sans les remarquer, on avait attaché aux plus belles d'entre elles des clochettes d'argent qui tintaient délicatement. Vraiment, tout était magnifique dans le jardin de l'empereur. Et ce jardin s'étendait si loin que même le jardinier n'en connaissait pas la fin. En marchant toujours plus loin, on arrivait à une merveilleuse forêt où de grands arbres se miraient dans des lacs profonds. Au-delà, scintillait la mer où voguaient des bateaux de pêche. C'est ici que, tout en haut d'un arbre, vivait un rossignol. Il chantait si délicieusement, que même le pauvre pêcheur, qui avait pourtant tant d'autres soucis en tête, ne pouvait s'empêcher de s'arrêter et de l'écouter lorsqu'il sortait la nuit pour récupérer ses filets.
Oh, « comme c'est beau !»
disait-il. Des voyageurs de tous les pays venaient dans la ville de l'empereur et s'émerveillaient devant le palais et son jardin. Mais lorsqu'ils entendaient chanter le rossignol, ils disaient tous
« Voilà ce qui est le plus beau !»
Alors, c'était le premier extrait de Le Rossignol et l'Empereur de Chine, un livre CD de l'ensemble La Rêveuse. Et ça tombe bien, puisque non content de commencer février en Vendômois par justement cette représentation du Rossignol ou l'Empereur de Chine, vous continuez à faire le lien entre la nature, les animaux, la musique et la Chine, puisque vous allez jouer pour l'Institut Confucius d'Orléans pour le concert du Nouvel An chinois le 15 février prochain à 18h, c'est à Orléans, hein, avec deux artistes chinoises, Yang Lining et Yang Li, pour un concert croisé autour de, justement, la nature, les animaux et la musique.
Oui, alors c'est une première de mélanger de la vraie musique chinoise, parce que dans le Rossignol et l'Empereur de Chine, on joue ce qu'on appelle des chinoiseries.
Oui, là, ce qu'on des entendait, créations qui vont imiter, en effet.
Voilà, là, c'était l'Aidronette, impératrice des pagodes de Ravel, qui était fascinée par l'Asie, et sans y être jamais allée, d'ailleurs, comme Andersen. Et donc là, nous serons avec des vraies musiciennes chinoises. Alors, il y a eu un petit changement de musicienne, d'ailleurs, entre-temps. Il y a Yang Li, qui joue du erhu, qui est du violon chinois. Et puis Meng Lingchen qui joue du guqin, c'est une sitar chinoise. Voilà. Donc nous allons broder, voilà, Benjamin et moi, et puis les deux musiciennes autour de ce thème de la nature qui a inspiré aussi bien en Asie qu'en Europe. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est un thème universel. Et donc chaque équipe entre guillemets va faire des propositions et à la fin on va jouer ensemble un air de Jean-Jacques Rousseau qui a été rapporté par un missionnaire chinois au XVIIIe siècle. Donc voilà une pièce qui réunit la France et la Chine et une pièce ancienne.
Et alors vous n'avez jamais rencontré ces artistes chinoises ?
Non. Alors non. On va les rencontrer évidemment avant, mais on va voilà pour travailler cette pièce ensemble. Mais sinon voilà chacun des artistes apporte son savoir, enfin ça, on dirait
son esthétique
voilà, oui. sur les musiques. Et en plus c'est des instruments, donc on a vraiment penser qu'il serait intéressant d'avoir un instrument à cordes pincées, un instrument à cordes frottées chacun. Donc vraiment, c'est le cas, puisqu'il y a viol de gambe et théorbe d'un côté, et violon chinois et sitar chinoise de l'autre.
Et c'est justement des musiques que vous avez pu étudier, vous, auparavant ?
Alors,
musique chinoise ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Donc ça va être une découverte, et pour elle aussi, je pense. Donc c'est vraiment un regard croisé sur une thématique, mais traitée différemment dans chaque pays.
Voilà, donc ça s'appelle Sous la Lune, un concert autour de la nature, le 15 février prochain à l'Institut Confucius d'Orléans, pour le Nouvel An chinois. Et puis, pour clore cette émission avec vous, La Rêveuse, on parlerait des heures et des heures de tous vos projets et de comment, justement, vous nous intéressez à toutes les musiques qu'on ne connaît pas, nous, à Radio Campus, hein, ou qu'on connaît très peu. On va pouvoir parler des ateliers de musique ancienne que vous menez avec les élèves du Conservatoire d'Orléans et qui se tiennent à la médiathèque régulièrement. Voilà, donc là, il s'agit en fait de créer avec les étudiants du conservatoire.
Alors, il s'est ouvert aux étudiants du conservatoire, mais on a aussi beaucoup d'amateurs, musiciens amateurs, souvent adultes, qui sont heureux de trouver des gens avec qui pratiquer. Et donc, ces ateliers, on se réunit une fois par mois avec l'idée de proposer des concerts régulièrement sur Orléans ou sur l'agglo. Et donc, le prochain sera à la médiathèque qui nous accueille une fois par an pour un concert. Et autour d'un, on continue à voyager, on fait un grand tour du monde entre la Chine, Londres. Et là, on arrive aux Antilles, puisque en fait, à l'automne, on a participé à un colloque qui s'est tenu à Orléans, organisé par Maxentre, sur le commerce du sucre à Orléans et évidemment lié à la pratique de l'esclavage. On a appris beaucoup de choses d'ailleurs. Et il fallait illustrer musicalement ce colloque. Donc, vraiment un sujet qu'on ne connaissait pas du tout, les Antilles au XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'on jouait dans les îles Guadeloupe, Martinique, Saint-Domingue, notamment Saint-Domingue qui était la plus grande île et où il y avait plusieurs théâtres. Et voilà, qu'est-ce qui reste de la musique des esclaves? Qu'est-ce qu'on jouait? Quelles étaient les pratiques? Souvent, on apprenait aux esclaves à jouer du violon pour pouvoir les louer dans les théâtres. Donc, il y avait beaucoup d'esclaves qui jouaient de la musique, en fait, dans les théâtres. Donc, tout ça, ce sont des choses très, très intéressantes, encore peu étudiées. Et on a monté déjà un petit programme pour ce colloque, mais qu'on va enrichir et que ça sera un gros programme pour la médiathèque le 30 mai. Et la médiathèque en profite pour faire justement une thématique sur la créolité. Autour de cette période et de ce concert.
Et d'ailleurs, vous avez choisi un extrait qui va pouvoir faire résonance à ce programme qui est présenté à la médiathèque. C'est The Caledonian Pocket Companion. C'est de la musique écossaise et qui figure sur Handel's Musician, London circa 1740.
Alors, c'est de la pré-musique celtique, on va dire.
Voilà.
Mais voilà, c'est une musique importante aussi pour les Écossais qui avaient une culture tellement différente de l'Angleterre. Et donc, c'est ces musiques traditionnelles, on va dire. Voilà, ont leur importance puisque c'est l'occasion aussi pour les gens qui vivent sur un territoire de montrer aussi par la musique leur culture.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Florence Bolton et Benjamin Perrault, d'être venus à Radio Campus. Voilà, donc à l'année prochaine pour le prochain disque que vous viendrez nous présenter, voilà, quand vous l'aurez sorti. Merci beaucoup.
Merci.
On le rappelle, un Tempus Fugit, c'est les 23 et 24 janvier prochains, votre nouvelle création. Voilà, vous avez pu la présenter à Noirlac déjà, mais là, vous la présentez à Orléans, sur votre territoire orléanais. Alors, on écoute donc cet extrait de London, circa 1740. Et merci beaucoup d'être venu.
Merci.
Merci.
Thank you. Radio Campus.
Mais qu'est-ce que t'entends par le mot style?
Turn the music on.
J'adore le camembert, j'adore le vin et j'adore Radio Campus. I like the way.